Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL,
12h30, 13h30,
avec Vincent Parisot.
Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est donc une nouvelle édition spéciale du journal inattendu. L'invité, évidemment, c'est le coronavirus, il va nous accompagner pendant longtemps. A prévenu cette semaine le patron de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, autrement dit, bien après le déconfinement, pendant des mois, à l'automne, à l'hiver. Il va donc nous falloir changer nos habitudes, apprendre à vivre avec ce virus. Et dans la vie quotidienne, évidemment, ça va changer bien des choses, que ce soit à la maison, avec nos familles, avec nos amis, dans les transports, au travail, ou encore pour notre temps libre, nos week-ends, nos vacances. Vivre avec le virus, cohabiter avec cette épidémie. On va donc en parler jusqu'à 13h30 avec l'historien Georges Vigarello, spécialiste de l'histoire de l'hygiène, avec Bernard Vivier, qui est le directeur de l'Institut supérieur du travail, avec Gilles Dansard, qui est expert en ferroviaire, directeur du site Mobilettre, et puis avec le sociologue Jean-Didier Urbain. On les retrouvera donc après le journal, qui commence maintenant avec à la une, l'État à la rescousse de deux fleurons de l'industrie nationale, Air France et Renault, un prêt de 7 milliards d'euros pour la compagnie aérienne, 5 milliards pour le constructeur automobile. Pour les croyants, le coronavirus change évidemment la donne. Les musulmans ont entamé le jeûne du Ramadan sans prière, sans mosquée, sans repas partagé. Chez les catholiques, 130 prêtres appellent ce matin dans une tribune le président à autoriser à nouveau les messes à partir du 11 mai. Principal point d'interrogation autour du déconfinement, la disponibilité des tests. Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est rendu ce matin dans un labo de Seine-Saint-Denis qui réalise des tests virologiques. Objectif pour le gouvernement, 500 000 par semaine d'ici le déconfinement. Le gouvernement va d'ailleurs plancher tout ce week-end sur son plan qui doit préciser ce qui sera mis en place après le 11 mai pour les tests, les masques, mais aussi les écoles et les transports. Les contours de ce plan pourraient être dévoilés dès mardi. Et puis on s'arrêtera sur un secteur gagnant au cœur de cette crise, les circuits courts, la distribution alimentaire locale. Les Français pourraient d'ailleurs bien modifier leurs habitudes sur le long terme. Sachez aussi qu'à l'étranger, l'Arabie Saoudite annonce ce matin la fin de la flagellation. Cette peine sera remplacée par de la prison ou des amendes. Le temps, Valérie Quintin, des orages au sud?
Oui, ça continue encore un petit peu d'orage. Alors on en a surtout dans la région centre-Val de Loire depuis déjà plusieurs heures ce matin. Donc ça va tomber encore assez fort cet après-midi. Des orages qui vont se manifester aussi sur le massif central, sur les Pyrénées. Et finalement, c'est toute la moitié sud qui va avoir un temps assez orageux, excepté quand même près de la Méditerranée. Il y aura du soleil en PACA et en Languedoc-Roussillon. Et puis à l'arrière, sur les régions les plus au nord, là aussi c'est du beau temps, avec tout de même un petit bémol orageux sur la Normandie. Là c'est pareil, il y a quelques averses orageuses qui circulent ce matin. Elles ont un petit peu de mal à finir. Elles devraient finir par le faire quand même au fil des heures. Les températures cet après-midi, 18 à Lille, 19 à Biarritz, 20 degrés pour Marseille, 21 à Aurillac et Nantes. Il fera 23 degrés à Paris et Dijon, 24 à Agen et Bordeaux et un maximum de 26 degrés pour Lyon.
Merci Valérie Quintin.
Le journal inattendu sur RTL.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a donc annoncé un soutien massif à deux grandes entreprises nationales qui, à elles seules, représentent en France plus d'1,5 million d'emplois directs et indirects. Il s'agit de Renault et d'Air France. Pour la compagnie aérienne, 7 milliards d'euros de prêts bancaires et de prêts de l'État. Pour le constructeur automobile, 5 milliards d'euros sous forme de prêts garantis par l'État. Bonjour Christophe Bourou.
Bonjour.
Pour ces deux fleurons de l'industrie française, donc, pas de nationalisation en vue, hein.
Oui, Bruno Le Maire a été très clair, pas question de nationalisation pour ces deux entreprises, dont l'État d'ailleurs est actionnaire à hauteur de 15% chez Renault et de 14% chez Air France. Pour le gouvernement, il s'agit avant tout d'éviter le naufrage pour ces deux géants, car pour l'instant, les pertes sont colossales. 5,5 milliards pour Renault depuis le début de la crise et 25 millions par jour du côté d'Air France. Car même si le trafic aérien est limité, avec à peine un vol sur 10, il faut continuer à entretenir les avions cloués au sol ou encore rembourser les emprunts. Même situation pour le constructeur automobile, dont les ventes sont quasi au point mort. Toutefois, il ne s'agit pas d'un chèque en blanc pour les deux entreprises. Air France devra ainsi réduire son empreinte carbone et accélérer son plan de transformation avec réduction des coûts et à la clé une probable diminution du nombre de lignes, notamment en France.
Voilà donc pour Air France et pour Renault, mais d'autres grandes entreprises, Christophe, ont déjà bénéficié du soutien de l'État.
Oui, avec cette première annonce faite cette semaine, une aide pour la FNAC Darty avec un crédit bancaire de 500 millions d'euros. Et puis l'État est déjà venu au secours de l'industrie automobile française. Lors de la crise de 2008, les deux grands constructeurs avaient bénéficié d'un prêt de 3 milliards d'euros chacun, ce qui avait sauvé à l'époque PSA proche de la faillite. Une bonne opération aussi pour l'État qui avait récolté avec les intérêts plus de 650 millions d'euros.
Christophe Bourou, la date du 11 mai, donc dans tous les esprits. Même si certains secteurs vont encore devoir patienter. C'est notamment le cas des restaurants, cafés et bars qui ne seront fixés sur leur sort qu'à la fin mai, où une date de réouverture sera alors annoncée. Le montant de l'aide pour les entreprises de ce secteur fermé depuis le 15 mars sera par ailleurs doublé à 10 000 euros maximum. Donc le gouvernement va travailler tout ce week-end sur son plan attendu la semaine prochaine, peut-être même dès mardi, pour sortir la France du confinement à partir du 11 mai. Il s'agit d'établir une ligne et une seule après les errements de ces derniers jours, notamment sur l'école ou les transports. L'objectif, c'est de sortir de la confusion, de trancher dans le vif, sans doute de mettre à contribution les élus locaux. On pense notamment à la distribution des masques, à l'établissement de règles dans les transports en commun et à la mise en place des tests à grande échelle. L'objectif du gouvernement est de pouvoir réaliser 500 000 tests d'ici le 11 mai. Olivier Véran, le ministre de la Santé, est d'ailleurs en ce moment dans un laboratoire de Saint-Denis qui effectue ces tests. Comme l'ensemble de la population, les croyants doivent s'adapter aux nouvelles règles établies pour faire face au coronavirus. Ainsi, après les fêtes chrétiennes de Pâques, et puis la Pâque juive confinée, le monde musulman a entamé hier le mois de jeûne du Ramadan sans prière collective, sans repas partagé. Les portes des mosquées restent closes, les rassemblements familiaux sont interdits. Mais ce matin, dans une tribune publiée par le Figaro, 130 prêtres catholiques demandent à pouvoir sortir du confinement à partir du 11 mai. Ils veulent pouvoir à nouveau célébrer des messes dans les églises. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Écoutez l'un des signataires de cette tribune, le père Grosjean. Il est avec Patrice Thomas.
Ça a été une douche froide. Personne ne s'attendait à ce qu'il annonce que le culte pourrait reprendre simplement un mois plus tard. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être absolument loyaux, obéissants, et ils l'ont été, et ensuite d'être injustes. Ce n'est pas un loisir pour les croyants. Je ne parle même pas de tous ceux qui ont dû reporter leur mariage, ce que vous imaginez, ou le baptême de leurs enfants, des premières communions du mois de mai, etc. Donc, je veux dire, les sacrifices, nous les avons faits comme tous les Français. Mais si aujourd'hui, la vie scolaire, la vie économique, les commerces, etc. peuvent reprendre, sauf les églises, mais alors c'est un sentiment d'injustice profond. Nous ne demandons pas plus, mais pas moins que les autres.
Voilà, sentiment d'injustice donc pour le père Grosjean qui demande la rouverture donc des églises à partir du 11 mai. Il était avec Patrice Thomas. Depuis le début de cette crise sanitaire du Covid-19, la distribution alimentaire par circuit court connaît un boom sans précédent. Ce qui était jusque-là une préoccupation avant tout environnementale est devenu encore plus évident pour faire face à la demande de produits frais à laquelle la grande distribution ne peut pas faire face toute seule. Du coup, les producteurs, les consommateurs et les collectivités territoriales s'organisent. Enquête sur ce phénomène en région centre, reportage. C'est avec vous, Christian Panvert.
Oui, depuis la crise sanitaire, il y a un vrai regain d'intérêt pour les producteurs locaux. Viviane et son fils Timothée, qui vendent des fruits et légumes sur le marché de la place de Strasbourg à Tours, l'ont constaté ces derniers jours.
C'est net. Ils se posent pas la question des grandes surfaces, là.
Les gens viennent parce qu'ils ont le temps de venir. C'est divertissant, les gens sont confinés, donc forcément, ils ont la sortie où ils peuvent acheter leurs produits, cuisiner après, ça c'est super.
À 15 km à Ballon-Miret, Frédéric Couratin, horticulteur, aimerait lui aussi continuer de faire des marchés, mais ils sont fermés, alors il s'est installé sur son parking pour écouler ses fleurs et ses plants.
J'ai pris l'initiative de faire un marché chez moi, donc un déballage comme un marché. Nous, chez nous, on ne va pas remplacer une saison par une autre saison. Cette saison-là est indispensable.
Les producteurs de volailles, de fromage ont également perdu leur réseau de vente. Les restaurants, la restauration collective et pas mal de marchés. Pour leur venir en aide, la région Centre-Val-de-Loire a créé une plateforme sur Internet afin de valoriser les produits frais, locaux et mettre en relation consommateurs et producteurs. François Bonneau, président de la région.
Plus de 700 producteurs sont référencés. On a plus de 1300 produits. Et de l'autre côté, on a plus de 300 000 contacts de gens qui sont venus, qui ont ouvert une fiche, qui se sont dit « Tiens, le gars à côté de chez moi, il a un drive fermier, il met dans la petite épicerie des produits locaux, je vais aller en chercher, etc. etc. » Finalement, cette crise, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que la meilleure des choses, ça n'est pas forcément d'aller acheter un produit qui n'a rien à voir avec la saison dans laquelle on est, à l'autre bout du monde.
Cette plateforme a boosté les demandes. De l'entreprise au fil des saisons, par exemple, installée depuis 14 ans à Savonnières, Thierry Henneto, son créateur, va chez les producteurs, prépare dans ses caves des paniers de fruits et légumes qu'il livre ensuite dans des petits commerces.
Essentiellement des boulangeries, mais aussi des boucheries. Ça peut être des fleuristes, un tapissier. Donc c'est assez varié, mais essentiellement quand même des commerces de bouche.
Est-ce que vous avez senti un boom dans les commandes depuis le confinement ?
On a fait même plus que sentir. La demande a été multipliée par 5 ou 6.
Il aimerait bien que ce phénomène s'inscrive dans la durée après le confinement.
Reportage en région centre, le circuit court, signé Christian Panvert. Et puis au chapitre sport, une légende du football français nous inquiète. Le Parisien aujourd'hui en France révèle ce matin que Robert Herbin, l'entraîneur mythique de la tout aussi mythique équipe de Saint-Étienne du milieu des années 70, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions, est hospitalisé dans un état grave à l'hôpital de la ville. Il souffrirait de graves insuffisances cardiaques et pulmonaires, mais pas du Covid-19, précise le journal. Christian-Olivier devrait nous donner des nouvelles ce soir à partir de 18h30 dans On refait le match. Et puis je vous le disais dans les titres, sachez que l'Arabie Saoudite annonce la suppression de la flagellation de son système pénal, une peine qui était très critiquée évidemment depuis des années par les organisations humanitaires internationales. La flagellation était infligée jusqu'à présent dans les cas de vol ou dans les cas d'adultère. Elle sera remplacée par des peines de prison ou d'amende, mais la date exacte de cette abolition n'a pas été précisée. Il est 12h42, c'est une édition spéciale du journal Inattendu. Comment vivre avec le virus qui va nous accompagner pendant longtemps ? On en parle dans un instant avec l'historien spécialiste de l'histoire de l'hygiène, Georges Vigareo, mais aussi tout de suite avec Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail.
Le journal Inattendu sur RTL.
Sur Teva. Le journal inattendu sur RTL,
présenté par Vincent Parizeau.
Vivre avec le virus, cohabiter avec cette épidémie. On va donc en parler jusqu'à 13h30 avec des spécialistes de différents secteurs. Le transport, ce sera tout à l'heure avec Gilles Dansard. Notre vie quotidienne, évidemment, avec le spécialiste de l'histoire de l'hygiène, Georges Vigarello. On parlera également de notre temps libre, de nos loisirs, de nos week-ends, peut-être de nos vacances. Ce sera avec Jean-Didier Urbain. Mais tout de suite, parlons boulot, parlons travail. On est avec le directeur de l'Institut supérieur du travail, Bernard Vivier. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Il va falloir vivre avec tout en travaillant, mais j'ai envie de dire quand même, Bernard Vivier, on a déjà commencé. C'est vrai qu'on a l'impression que la France est à l'arrêt, mais la France, elle travaille quand même plus ou moins.
Elle travaille pas plus ou moins, elle travaille et nous avons besoin de travailler parce que nous produisons des biens et des services et nous recevons en retour évidemment quelque chose de très important qui s'appelle un emploi, une rémunération. Nous vivons aujourd'hui une période très particulière où l'État semble le grand dispensateur de la ressource, du revenu, du salaire, se substitue aux entreprises pour délivrer des salaires et c'est très important. Grâce à ce grand effort collectif, nous ne sombrons pas dans la misère. Mais bien évidemment, une économie qui fonctionne, c'est une économie où les entreprises produisent de la richesse, produisent pour les salariés des salaires.
Alors parlons évidemment de l'après 11 mai, projetons-nous dans le temps, dans l'avenir. Il y a déjà quelque chose qui a été annoncé, c'est que le télétravail allait continuer dans la mesure du possible, évidemment, pour les entreprises. Est-ce que le télétravail peut s'inscrire dans le temps, dans la durée ?
Oui, c'est probablement une des grandes évolutions qui va naître à l'issue de cette période de crise que nous vivons, à savoir le formidable développement du télétravail. Aujourd'hui, le télétravail concerne de façon ponctuelle ou régulière à peu près 5 millions de personnes, c'est-à-dire un salarié du secteur privé sur 3. C'est beaucoup. Les entreprises déjà réfléchissent évidemment à la reprise du travail avec toutes les mesures sanitaires qui sont prises pour que le travail reprenne dans les lieux de travail avec toute la sécurité qu'il faut. Et puis, ces entreprises réfléchissent aussi au développement du télétravail. Je prends un exemple. Une entreprise comme PSA, Peugeot Citroën, la moitié des salariés sont éligibles au télétravail parce que beaucoup ne le peuvent pas.
C'est énorme quand même chez PSA parce qu'on imagine que la plupart des salariés sont sur les chaînes de montage. Non.
Non, il y en a pratiquement la moitié qui seraient éligibles au télétravail. Et aujourd'hui, vous en avez, sur ceux qui sont éligibles, la moitié qui déjà travaillent en télétravail un jour par semaine. Donc après la crise, évidemment, il va falloir dans cette entreprise reprendre le travail, mais aussi penser fortement au développement du télétravail, qui présente des avantages et des inconvénients. Oui. Des avantages parce que cela permet des économies de temps, de transport, cela permet de concilier peut-être un peu plus facilement vie professionnelle et vie privée. Cela fait des inconvénients, cela provoque des inconvénients aussi. Justement, le mélange, la frontière devient floue entre vie professionnelle et vie privée. Et puis, grande interrogation, quand on est chez soi, comme dirait Monsieur Lapalisse, on n'est pas dans l'entreprise, ouais. On n'est pas ensemble. Ouais. Or, l'entreprise, c'est une communauté de travail. C'est un lieu où l'on grogne, où l'on sourit, où l'on exprime des sentiments, où la machine à café est un lieu où l'on parle, où l'on échange. Ces à côté de la vie strictement de production sont des moments importants. Et donc, le télétravail va prendre de l'ampleur. Il n'effacera évidemment pas le besoin d'être ensemble.
Mmh. Alors, les questions qui se posent également pour celles et ceux qui vont retrouver leur entreprise, l'entreprise qu'ils ont quittée parfois depuis plusieurs mois. Ça peut être compliqué psychologiquement ?
Oui, ce peut être compliqué. Les entreprises, justement, font très attention que la reprise du travail, notamment dans l'industrie, ne se fasse qu'à deux conditions. Un, que le dialogue social dans les entreprises soit suffisamment mûr, que les organisations syndicales et les directions soient suffisamment d'accord. Et c'est là où l'on voit que les entreprises qui ont bien travaillé leur politique de relations sociales, les relations avec les organisations syndicales, vont en tirer un avantage concurrentiel. Et puis évidemment, que les lieux de production soient conformes aux règles sanitaires. Et toute une batterie de mesures sont prises, des audits, des contrôles, des entrées des visiteurs, la désinfection des locaux, les prises de température du personnel, des horaires décalés, des équipes tournantes, évidemment les distances de sécurité, et puis dans certaines activités, des systèmes de protection. On pense aux caissières dans les magasins, dans les supermarchés, des dispositifs qui permettent d'isoler, tout en gardant le contact visuel, d'isoler le caissier, la caissière avec le client. Mmh. Voilà.
Bref. Ça, ce sont des décisions qui viennent de l'employeur, mais du côté des salariés, est-ce qu'on peut imaginer une multiplication ou des revendications ou des droits de retrait? Tout à l'heure, on parlera des transports, par exemple, du côté de la CGT. Aujourd'hui, on voit vraiment que les cheminots sont très frileux à l'idée de la reprise. C'est envisageable aussi, ça?
L'idée de droit de retrait, enfin la notion, pas l'idée, la notion de droit de retrait est une notion inscrite dans le Code du travail, mais qui correspond à un cadre juridique très précis. Ce ne sont pas les salariés qui décident de travailler ou de ne pas travailler, sauf précisément dans des cas très graves, dans des cas où il y a un danger grave et imminent. Là, nous sommes aujourd'hui dans une situation où le problème, il est collectif, où il faut que direction et instance représentative du personnel examinent les mesures. Et on le voit, le travail doit être repris, c'est très important. On ne peut pas dire, on va passer le mois de mai, de juin, de juillet, d'août, à être payé, à ne rien faire. Mmh. Ce serait la ruine de l'économie.
Bien sûr. Alors, pour ceux qui vont retourner sur leur lieu de travail, dans leur entreprise, se pose évidemment la question de l'organisation, de ce qu'ils vont trouver sur place, le gel à disposition, les masques, la distanciation nécessaire. Ce sont tous ces aménagements matériels aujourd'hui qui sont au cœur de la réflexion dans les entreprises. Mais est-ce qu'elles seront prêtes, ces entreprises, le 11 mai, d'après vous, Bernard Vivier ?
Elles le font à marche forcée, mais elles le font. Elles s'activent très fortement parce qu'il y a la contrainte. Il faut produire et on ne peut pas produire de n'importe quelle façon.
On voit bien avec l'affaire Amazon, notamment, que la justice veille quand même.
Oui, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais il faut le faire. Et les entreprises ont des ressources, elles n'ont pas toutes les ressources. On pense notamment aux masques. Qui va les fournir? Qui va les payer? Il faut également qu'au niveau gouvernemental, La logique du ministère de la Santé, qui met l'accent évidemment sur la précaution, sur la santé, et la logique du ministère de l'Économie, qui est lui portée vers le redémarrage de la production, ces deux logiques s'accordent. Dans d'autres pays européens, c'est le cas, en Autriche, en Allemagne. En France, on sent bien encore qu'au sein du gouvernement, il y a ces deux logiques et que le Premier ministre, le Président de la République tâtonnent. On l'a vu tout récemment sur l'affaire des seniors, par exemple.
Autre question, alors là, totalement pratique et matérielle dans les entreprises, mais les open space qui ont fleuri, au cours de cette dernière décennie, risquent-ils de se transformer eux aussi? Va-t-on reconstruire des bureaux?
Non, à la marge, si l'on a déconfiné sur le lieu de travail les salariés pour les inviter à travailler dans des open space, formule qui est diversement appréciée, c'est pas un franc succès dans notre pays, ce dispositif ne sera pas remis en cause. Simplement, il va falloir mettre en place des règles d'hygiène, de distance. L'entreprise, c'est pas uniquement les bureaux, on en parlait tout à l'heure, c'est la machine à café, c'est le lieu, c'est l'accueil, ce sont les réunions, et tout cela ne va pas abîmer gravement la notion d'open space, mais ça va marquer, c'est vrai, un temps d'arrêt.
Alors, l'entreprise, effectivement, ce n'est pas que les bureaux, il y a aussi les commerces, évidemment, et puis tous ceux qui travaillent en extérieur. Vous, aujourd'hui, Bernard Vivier, est-ce que vous pensez que la France est prête à reprendre le travail le 11 mai ?
Non, pas totalement, bien évidemment. Il est d'abord parce que dans les centres industriels, on parle de l'industrie là, les équipements doivent être mis au point, et il faut avancer progressivement. Et puis, il est des activités qui sont réellement sinistrées. On pense au tourisme, on pense à l'hôtellerie-restauration, on pense à quantité d'activités où les règles ne sont pas encore possibles pour reprendre du travail. Le bâtiment, les travaux publics sont aujourd'hui très abîmés aussi, mais voilà un secteur
essentiel
pour l'économie.
Il faudra du temps, là, il faudra beaucoup de temps.
Oui. Ouais. Il va falloir des semaines et des semaines pour progressivement reprendre le travail, en espérant, soyons très prudents et réalistes en même temps, que cette crise n'est qu'une crise à un coup, qu'il n'y aura pas, comme dans un séisme, des répliques, et que la reprise pourra se faire en continu, sans être abîmée par de nouvelles menaces, de nouvelles craintes d'un retour du virus.
Ça, c'est évidemment ce qu'il faut espérer, et d'ailleurs, on va pouvoir en parler avec notre deuxième invité. Je vous remercie beaucoup, Bernard Vivier, d'avoir été avec nous, directeur de l'Institut supérieur du travail. Oui, on va parler de cette épidémie avec un historien spécialiste de l'histoire de l'hygiène, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est avec nous, Georges Vigarello. Merci beaucoup d'être sur RTL. Bonjour.
Bonjour.
On va devoir donc se préparer à vivre avec ce virus pour lequel nous ne sommes pas vaccinés, pour un certain temps, de toute façon pour plusieurs mois. De quoi peut-on s'inspirer aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement on tâtonne, on innove. Quels sont les précédents qui peuvent nous aider à imaginer ce que sera notre avenir?
Écoutez, là, il y a évidemment une nouveauté radicale. Il y a une nouveauté radicale qui consiste, par exemple, à porter le masque, à prendre une distance, à avoir une sorte de grande sévérité sur ce que j'appellerais le contact. Alors, c'est sûr qu'il y a une tradition, effectivement, de la distance par rapport au contact. Je pense simplement aux lépreux. Les lépreux sont renvoyés dans d'autres zones que celles du quotidien, au Moyen Âge. Vous voyez, il y a donc une tradition du contact, mais incontestablement, cette tradition, elle est rompue aujourd'hui avec tout un ensemble d'instrumentalisations nouvelles, les gants, le masque, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est plutôt que le fait, et c'était très bien dit par Bernard Vivier tout à l'heure, c'est le fait que notre quotidien va être totalement bouleversé. Et que, de ce point de vue, il n'y a pas tellement de repères dans les époques anciennes. Mais j'ajouterais quand même une chose, parce que ça me paraît très important. Lorsqu'on signale toujours le fait qu'il y a une accentuation d'hygiène, c'est vrai, et en même temps, c'est pas complètement vrai. Ce qui s'est imposé aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire une distance et finalement une précaution à l'égard du contact. Mais l'hygiène, c'est beaucoup plus compliqué que ce genre de choses. La grande conquête de l'hygiène, c'est pas seulement le fait de se laver les mains. La grande conquête de l'hygiène, c'est s'intéresser à ce que moi j'appellerais le dessous, c'est-à-dire à la propreté de l'ensemble du corps. Mmh. Et le fait d'entretenir l'ensemble du corps, les parties secrètes, les parties invisibles, etc. C'est ça la conquête de l'hygiène, vous voyez.
Mais l'idée qu'on se fait...
C'est pas ça qui est en cause aujourd'hui. Mmh. C'est en cause aujourd'hui, et c'est très important, c'est le contact, et j'y reviens.
Oui, parce que l'idée qu'on se fait de l'hygiène aujourd'hui, Georges Vigarello, c'est, j'ai envie de dire... La propreté,
voilà.
C'est pas la mais lutte contre un virus, on n'a jamais appris ça.
Non, mais vous voyez, alors, précisons, c'est une propreté de surface. Mmh. Or, l'immense conquête de l'hygiène, à mes yeux, c'est qu'elle a apporté une propreté du dessous, une propreté de ceux qui ne se voient pas. Et c'est une conquête lente. Et c'est une conquête, quand on l'étudie historiquement, c'est une conquête absolument passionnante qui s'effectue, je dirais, siècle après siècle, extrêmement lentement, et qui est acquise aujourd'hui. On le voit très bien, les douches et les bains sont parfaitement à la disposition de tout le monde, ce qui n'était pas du tout le cas il n'y a encore que quelques décennies. Donc ça, c'est très fondamental, ne l'oublions jamais. Maintenant, revenons sur la question du contact. Moi, je considère effectivement que c'est une révolution. Et je reprends ce que vous venez de dire, c'est une révolution pourquoi ? Parce que nous sommes face à un virus dont nous ne savons pas pendant combien de temps il va continuer de circuler entre nous. Et du coup, ça entraîne quelque chose qui est complètement neuf à mon sens. L'inquiétude de l'espace, vous voyez, l'espace, on sort, c'est absolument pas sûr. L'inquiétude des gens que l'on croise, l'inquiétude d'un temps, combien de temps ça va durer. Alors, bien sûr, il y a des traditions, la durée, tout ça, oui, bien sûr, ça existait. Les morts, le fait d'être face à une mortalité absolument incontrôlable, c'est ça la grande tradition des épidémies. Vous voyez, la mortalité, vous ne la contrôlez pas. Mmh. Par exemple, pour prendre un exemple très simple, qui est celui du choléra en 1832, qui a envahi la France de façon épouvantable, à Paris en particulier, jusqu'à la mort du Premier ministre Casimir Perrier, qu'est-ce que c'est que le choléra ? C'est l'impossibilité de gérer la mortalité. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on déplace les cercueils la nuit, dans d'immenses berlines, qui font un bruit fou et qui inquiètent encore davantage les citoyens et qui les angoissent, avec des cercueils qui tombent des berlines. C'est une image d'apocalypse, vous voyez. Et cette image, je trouve que, par certains côtés, nous y touchons. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus véritablement à gérer le nombre de morts aujourd'hui. On voit des images qui, évidemment, sont nouvelles, parce que la télévision a inventé des choses, si vous voulez. Mais elle crée du spectacle.
C'est absolument passionnant ce que vous nous décrivez. Restez avec nous, Georges Vigarello. On va marquer une très courte pause de publicité. Se retrouver ensuite pour le rappel de l'actualité. Et avec vous, historien, spécialiste de l'histoire de l'hygiène. Et comment Pensez à imaginer ensemble notre monde de demain. A tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL. Société de la santé.
Il est 13h.
Le journal inattendu sur RTL.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Avec l'État qui vole à la rescousse de deux fleurons de l'industrie nationale, Air France et Renault, un prêt de 7 milliards d'euros pour la compagnie aérienne, 5 milliards pour le constructeur automobile. Principal point d'interrogation autour du déconfinement annoncé pour le 11 mai, la disponibilité des tests. L'objectif pour le gouvernement, c'est 500 à 700 000 tests par semaine d'ici le déconfinement. Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est rendu ce matin dans un laboratoire de Seine-Saint-Denis qui réalise des tests virologiques et il a salué notamment tous les efforts entrepris depuis des semaines.
J'ai vu là une dynamique incroyable, un vestiaire qui a été transformé en l'espace de quelques jours en une plateforme de tests PCR, la capacité d'aller recruter des biologistes, des techniciens de laboratoire, des gens pour faire des prélèvements. Ils ont réalisé l'exploit d'être capable à la fois de dépister dans les EHPAD, de dépister les malades qui devaient l'être, mais également de créer ce qu'on appelle des drive tests, c'est-à-dire qu'ils mettent à proximité généralement de leur laboratoire des équipes mobiles à l'extérieur pour faire les prélèvements. C'est ainsi que nous allons fonctionner dans les prochaines semaines pour faire face à l'épidémie, avec cet objectif que je rappelle, qui est de réaliser au moins 500, 700 000 tests par semaine à partir du moment où nous lèverons progressivement le confinement. Je rappelle que le nombre de tests réalisés dans notre pays a augmenté très sensiblement. Rien qu'en Île-de-France, hier, ce sont près de 20 000 tests qui ont été réalisés, c'est-à-dire que l'Île-de-France fait désormais par jour ce que la France réalisés en entier.
Voilà, objectif 500 à 700 000 tests à partir du déconfinement. Voilà ce qu'a annoncé Olivier Véran, le ministre de la Santé. Le gouvernement va d'ailleurs plancher tout ce week-end sur son plan. Le plan qui doit préciser ce qui sera mis en place à partir du 11 mai pour les tests donc, mais aussi les masques, les écoles ou encore les transports. Pour les croyants, le coronavirus change évidemment la donne. Les musulmans ont entamé le jeûne du ramadan sans prière, sans mosquée, sans repas partagé. Chez les catholiques, 130 prêtres appellent dans une tribune ce matin. Le président de la République a autorisé à nouveau les messes à partir du 11 mai. Et puis inquiétude pour Robert Herbin, l'ancien entraîneur de la mythique équipe des Verts du milieu des années 70. Le Parisien révèle qu'il est hospitalisé dans un état grave au CHU de Saint-Étienne. Insuffisance cardiaque et pulmonaire, mais le coronavirus ne serait pas en cause. Et puis le temps orageux dans le centre du pays cet après-midi, toujours ensoleillé partout ailleurs. Des orages parfois forts attendus entre le Centre-Val-de-Loire et le Massif Central. Ça tonnera également en montagne sur les Pyrénées et les Alpes en fin de journée. Les températures de 15 à 25 de Dunkerque à Lyon. Il fera 23 à Paris ainsi qu'à Mont-de-Marsan.
Le journal inattendu sur RTL,
présenté par Vincent Parisot.
Et toujours avec Georges Vigarello, donc directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'hygiène, historien. On a évoqué avec vous tout à l'heure la tradition du contact qui effectivement joue un très grand rôle dans cette épidémie. Est-ce que le rapport que nous avons, et notamment nous Français ou Européens, entretenu depuis des décennies avec l'hygiène, cette tradition du contact, explique en partie les dégâts occasionnés chez nous et apparemment, en tout cas, de moindre ampleur dans certains pays asiatiques?
Écoutez, c'est difficile à dire. Moi, j'ai l'impression aussi que les pays asiatiques ont eu une tradition du port du masque, par exemple, vous voyez, qui est différente par rapport à la nôtre. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ce qui change, c'est un problème que je qualifierais d'affectif. Il y a une affectivité qui est montée, mais qui concerne vraiment un nombre de régions extrêmement importantes. Qu'est-ce que c'est que cette affectivité? C'est le plaisir, finalement, d'avoir un contact avec l'autre, de l'approcher, etc. Je ne pense pas que ce soit ça qui, traditionnellement, si vous voulez, crée la rupture. Je pense que la rupture, c'est vraiment l'existence d'un virus. C'est ça, la rupture. Et ça entraîne, du coup, c'est très important, ça. Ça entraîne des comportements auxquels, effectivement, nous ne sommes pas du tout habitués, qui sont à la fois des comportements d'observation que je qualifierais d'hygiéniques, mais qui sont des comportements aussi d'observation affective, c'est-à-dire finalement prendre une distance, ne plus s'entourer. Moi, j'avais été très frappé par la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, où lors de la victoire de la France, notre président Sarkozy s'était précipité dans les bras du président de la Fédération de rugby. Mais ça, c'est un signe, je dirais, d'enthousiasme. Vous voyez, c'est un signe à la limite positif, d'affectif, etc. Effectivement, ça, il faudra vraisemblablement prendre un certain temps.
Mais je pense à un geste tout simple qui est celui de se serrer la main. On avait le sentiment que ça serait très compliqué de ne plus le faire. Apparemment, tout le monde s'est mis.
Vous avez raison. Les rituels changent. Et je pense que, vu le risque, parce que c'est quand même ça qui est important, vu le risque, les rituels se retiennent. Et ce risque, ce qui est très nouveau, j'insiste, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce risque, ce qui est terrible, c'est que plus qu'auparavant, on le voit. Parce que, du coup, les images des médias comme les vôtres disent des choses et informent, si vous voulez, sur ce risque, vous voyez. Et donc, je trouve que, du coup, il alerte beaucoup plus que la tradition ne pouvait le faire.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on se dirige, à long terme, dans une société où on ne va plus se serrer la main ou même se faire la bise? Je parle pas entre époux, hein, ou entre parents, mais plus généralement.
Écoutez, c'est difficile de dire parce que, précisément, alors, ce qui est également surprenant dans le cadre de ce virus, c'est qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas. On ne sait pas pendant combien de temps il peut circuler, on ne sait pas pendant combien de temps il peut faire courir des risques, on ne sait pas encore jusqu'à quand le vaccin surgira. Mais c'est vrai que vraisemblablement, le changement des rituels tel qu'on l'observe aujourd'hui, vraisemblablement, j'y reviens, risque de durer pas mal de temps. Et de ce point de vue, pourquoi pas, vous voyez ?
Oui, pourquoi pas. Il suffit juste de se faire à l'idée, quoi.
Ben oui, voilà. Oui, absolument.
Merci, c'était passionnant. Georges Vigarello, historien, spécialiste de l'histoire de l'hygiène. Merci d'avoir été
c'est moi qui vous remercie.
Avec nous sur RTL. On marque une courte pause et puis dans un instant, on prend le train, le RER, l'avion ou un transport alternatif, mais toujours avec le coronavirus parmi les passagers. À tout de suite.
RTV.
va. Le journal inattendu sur RTL,
présenté par Vincent Parisot.
Vivre avec le coronavirus, on en parle jusqu'à 13h30 avec nos invités, des spécialistes. Se déplacer avec le coronavirus, telle est la question. On accueille Gilles Dansard, qui est spécialiste du ferroviaire et des transports, directeur du site Mobilêtre. Bonjour.
Bonjour.
Et on se prépare à accueillir dans un instant, il pourra d'ailleurs intervenir s'il le souhaite, Jean-Didier Urbain, le sociologue, spécialiste notamment du tourisme et des loisirs, parce que c'est lié au transport, même si on n'utilise pas les moyens de transport uniquement pour nos loisirs, on les utilise et on va les utiliser, notamment à partir du 11 mai, aussi pour aller au travail. L'après 11 mai, justement, Gilles Dansard, c'est quand même un grand défi. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de la reprise du trafic à partir de cette date?
Pour l'instant, c'est encore une grande inconnue. Parce que malgré les consignes qui sont de deux ordres, un, il faut moins se déplacer parce qu'on ne va pas, il n'y aura pas de miracle, on ne va pas tout d'un coup élargir les routes pour accueillir plus de voitures ou mettre plus de rames de métro ou de TGV ou de tramway ou de bus. Donc il va falloir moins se déplacer et puis se déplacer autrement, c'est-à-dire ce qu'on appelle en langage technique, lisser les pointes, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait moins de monde le matin et le soir et d'étaler un peu les rythmes de travail. Et ça, c'est deux défis dont on ne sait pas si les populations, en l'occurrence occidentales et françaises, sont capables de relever. Parce que jusqu'à maintenant, ça fait en gros, la mobilité a augmenté sur la longue période. Tous les ans, il y a de plus en plus de gens qui se déplacent, notamment au quotidien. Les chiffres sont stupéfiants. On croyait que le développement du numérique, depuis 15 ans, allait un peu faire en sorte que les gens se sédentarisent. C'est tout le contraire qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que il va se passer à partir du 11 mai? Est-ce que les gens vont effectivement observer des consignes de frugalité d'une certaine façon en matière de déplacement? Est-ce que l'ensemble des acteurs économiques, entreprises, administrations, établissements scolaires vont faire en sorte d'étaler la reprise, de modifier les horaires de travail, de cours, etc. Ça, c'est encore une grande inconnue.
Mais on voit déjà actuellement, par exemple, dans le métro, des rames qui sont alors bondées, peut-être pas archi bondées, mais en tout cas bien remplies, avec des gens debout, tous les sièges occupés.
Oui, et c'est ça le risque. Si le 11 mai, il y a les habitudes reprennent trop fortement, ça posera problème, d'autant que les transporteurs ne pourront pas tout de suite reprendre 100% de l'offre de transport.
Alors c'était ma question, quelle va être l'ampleur de la reprise aussi au niveau des transporteurs? Est-ce qu'on peut espérer 50% du trafic? Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de alors ça dépend évidemment des moyens de transport, hein. Dans l'aérien, c'est beaucoup moins, mais pour le train, le métro, le RER, 30%.
Alors, faut distinguer ce qu'on appelle le transport de proximité dans les zones denses et puis le transport longue distance, le TGV, les trains intercités, les avions, etc. Sur l'essentiel, qui sont les transports du quotidien, c'est ceux qui concentrent le plus de monde. Il y a une semaine, la SNCF et RATP promettaient 50% le 11 mai. Ça a pas mal râlé du côté de l'État et des élus, donc ils promettent de faire plus. 60% pour la SNCF, la RATP dit en moyenne 70%. Bon, il va falloir effectivement qu'il y ait le maximum de rames, mais en même temps, s'il y a trop d'offres, les gens vont se précipiter. Donc c'est une équation un peu compliquée. C'est-à-dire, plus les tuyaux sont gros d'une certaine façon, plus on fait passer d'eau. Donc c'est un peu difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que c'est pas simple pour les entreprises de transport de retrouver instantanément entre le 10 et le 11 mai, une offre normale. Ouais. Donc ça devrait être là aussi progressif.
Alors on parlait à l'instant avec Georges Vigarello de la nécessité de changer un certain nombre d'habitudes. La règle, ça sera sans doute pas de masque, vous ne montez pas?
Le gouvernement n'a pas encore dit ce qu'il prescrivait. C'est-à-dire que les élus, les opérateurs de transport demandent à ce que la consigne soit claire. Des masques obligatoires dans ce qu'on appelle les espaces publics partagés, c'est-à-dire les transports, mais pas seulement, les mairies, les administrations, etc. De faire en sorte que sur tous les espaces où on croise de multiples concitoyens, eh bien là, le masque soit obligatoire, avec à l'atelier une verbalisation en cas de non-respect. Mais pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore décidé ça. Les transporteurs, les élus choisissent cette solution, sont pour cette solution, parce que le respect de la distanciation sociale, ce sera extrêmement difficile à faire respecter de façon systématique.
Et justement, la distanciation sociale, par exemple, à bord d'un avion ou à bord d'un TGV, économiquement, l'équation, elle est impossible. Remplir à moitié les rames de TGV ou les avions, on sait les faire voler à moitié plein ?
Ah, on peut les faire voler, il n'y a aucun problème.
Non, mais économiquement, je veux dire.
Hein. Économiquement, eh bien, peut-être pendant une période transitoire, puisque l'important, c'est de que les Français et les passagers recouvrent la confiance, peut-être d'une façon transitoire, on peut imaginer de ne pas vendre tous les sièges, justement, pour faire baisser un peu la pression. Mais à long terme, vous avez raison. On ne peut pas imaginer qu'on ne vende que, à tout jamais que 50%
des. C'est l'objet de l'émission, parce que là, on parle de long terme. Hein. On parle de règles qu'il va sans doute falloir tenir jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin.
Eh bien, s'il faut faire respecter ces règles de distanciation sociale dans ces transports, avions, TGV, etc., à ce moment-là, il va falloir changer le modèle économique. Et il n'y a pas de miracle. Ce serait une hausse des prix qui serait consécutive à une telle décision. On voit plutôt une période un peu transitoire. Les Italiens, d'ailleurs, sont en train de mettre en place ce qu'on appelle la réservation en damier, comme un jeu d'échecs. On ne vend que les places noires, ce qui fait qu'on ne sera jamais soit à côté, soit derrière ou devant quelqu'un d'autre. Donc ça peut contribuer à rassurer un peu tout le monde et à éviter évidemment la propagation trop rapide du virus.
Mais là, vous parlez éventuellement d'entreprises publiques, mais pour les entreprises privées, si elles doivent perdre de l'argent, c'est plus embêtant.
C'est à long terme, oui, bien sûr, vous avez raison, c'est beaucoup plus embêtant. C'est pour ça que, pour l'instant, elle résiste à cette hypothèse-là, mais peut-être de façon transitoire, elle pourrait adopter ce genre de situation.
Alors vous qui êtes spécialiste du ferroviaire, notamment Gilles Dansart, comment ça réagit au niveau des acteurs au sein des entreprises de transport, je veux dire les salariés, est-ce qu'ils vont reprendre le travail comme si de rien n'était? Si je vous pose la question, c'est parce que j'ai entendu le secrétaire général de la CGT des cheminots, Laurent Brun, qui dit non, les cheminots n'organiseront pas le massacre si on n'a pas de solution un petit peu sérieuse, il n'y aura pas de travail, pas de protection, pas de travail. Ils demandent notamment des masques FFP2 pour tout le monde.
Effectivement, il y a une pression des syndicats pour que l'organisation de la production soit très respectueuse des règles sanitaires. Donc, on a vu aussi que dans une entreprise comme la RATP, il y a eu de très nombreux arrêts maladie. En milieu de semaine, il y avait environ 8500 arrêts maladie pour une entreprise qui a 70 000 salariés, donc c'est assez conséquent. Il y a aussi tous les salariés qui doivent rester à la maison pour garder leurs enfants. Donc la reprise sera compliquée, mais les transporteurs savent très bien, ne serait-ce que pour éviter les futurs contentieux, qu'ils doivent faire le maximum pour garantir la sécurité sanitaire de leurs salariés. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'être imaginées, d'être mises en place, et c'est tout l'enjeu de ces 15 derniers jours pour les transporteurs que de faire en sorte que les salariés soient dans des conditions de travail assez sûres. Et c'est un travail vraiment de précision, parce que encore une fois, ce virus, il se niche dans des endroits parfois insoupçonnés.
Bien sûr, et ça donne aussi ça pose aussi d'ailleurs la question de la désinfection des matériels de transport.
C'est la vraie, si je peux me permettre, ça c'est le vrai défi. C'est-à-dire que la propreté, ça a toujours été une sorte de variable d'ajustement des budgets. Quand on a un peu moins de budget, eh bien on réduisait un peu la propreté. Là, il faut complètement renverser, si je puis dire, la tendance ou le paradigme. Il faut vraiment que la propreté devienne la priorité des opérateurs transport. Aussi bien nettoyer les rampes, nettoyer les rames, nettoyer les espaces. Là, il faut vraiment.
Mais ça a un coût important, hein.
Ah oui, ça a un coût important, mais il n'est pas inaccessible. Il faut juste revoir toute l'organisation, parce que pour l'instant, c'est souvent confié à des sociétés de sous-traitance, et donc c'est pas complètement la priorité. Donc là, il faut vraiment que tout le monde s'y mette, parce que ça n'est pas possible de continuer avec des conditions d'hygiène aussi faibles, notamment dans les espaces de transport souterrain.
C'est une particularité française, ça,
Oui, pour voyager beaucoup en Europe et dans le monde, on a vraiment des infrastructures de transport, notamment en Île-de-France, qui sont pas au niveau. C'est aussi une responsabilité individuelle et collective. Mmh. Il y a des comportements qui ne sont pas civiques de ce point de vue-là. Donc là, c'est à la fois un défi pour les entreprises de transport, mais c'est aussi un défi collectif pour les voyageurs de mieux respecter les espaces et les modes de transport.
Merci Gilles Dansart. J'imagine que vous n'avez pas la réponse à la question, y aura-t-il des trains pour aller en vacances cet été en France?
Il y aura des trains, mais est-ce que le gouvernement décidera de tests préalables pour des gens qui voudront se rendre dans des zones, par exemple, très peu contaminées pour éviter des effets rebonds? Est-ce qu'on va diminuer un peu le nombre de trains pour éviter justement une propagation? Ça, on ne le sait pas. Tout dépendra de l'évolution des chiffres de mortalité, de propagation du virus.
Eh bien, on va attendre un petit peu, mais ça ne nous empêche pas quand même de penser notre temps libre, nos week-ends, nos vacances avec le coronavirus. Ça va quand même changer des choses. On va en parler avec Jean-Didier Urbain. Merci beaucoup, Gilles Dansart, d'avoir été avec nous. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Présenté par Vincent Parisot.
On achève ce journal inattendu, vivre avec le virus, ce virus qui va nous accompagner pendant longtemps, je le disais, à l'automne, à l'hiver. Et cet été, évidemment, on pense à nos vacances, même si on n'a vraiment pas beaucoup d'idées sur la manière dont elles vont se dérouler. On est avec le sociologue des loisirs, Jean-Didier Urbain. Merci d'être avec nous.
Je vous en prie, bonjour.
Bonjour. Repenser notre temps libre, nos week-ends, nos vacances. Et évidemment, aujourd'hui, tout le monde pense aux vacances d'été, mais il faut peut-être regarder les choses d'une manière plus générale. Comment repenser aujourd'hui et réorganiser notre temps libre alors que pour l'instant on n'a pas vraiment les moyens, j'allais dire, d'en profiter?
Oui, c'est certain que le corona a modifié complètement la relation, je dirais, à la ville et à ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire la campagne notamment, mais enfin des espaces extérieurs. Ça a été une grande expérience de privation de lien social et d'espace. Et que comme l'a dit très joliment l'écrivaine Céline Coulon, hein, c'est un petit peu la revanche de ces lieux que l'on dit morts et qui sont devenus des lieux de vie, à savoir les campagnes isolées, les campagnes désertes, les maisons avec jardin, qui sont devenues des véritables paradis au regard de ceux qui sont, hélas, confinés dans des espaces restreints, avec, on l'a appris, 13% des Français qui non seulement sont en appartement, mais des appartements sans balcon, donc sans même un petit exutoire comme ça, sur le vide, sur l'espace. Donc c'est sûr que ça a modifié notre relation à la ville, ça a modifié notre relation au plaisir du confinement, parce qu'on entend beaucoup de gens qui sont finalement ravis du confinement parce qu'ils peuvent faire plein de choses. Mmh. Mais il y en a plein d'autres qui sont très malheureux parce que le confinement, il est peut-être heureux quand il est choisi.
Oui, on appelle ça le cocooning.
Voilà, mais là il a été subi, vous voulez, hein. Et si vous vous souvenez de Robinson Crusoe après son naufrage sur son île déserte, il était très dépressif, hein. Il se sentait bien seul, bien démuni. Il a fallu un vendredi pour qu'il revienne un petit peu à la vie, quoi. Ouais. Donc on est un petit peu comme ça, on est tous privés de notre vendredi quand on est confiné en ville. Et je pense que à court terme, la première destination des Français quand ils pourront sortir de chez eux, ce sera leurs amis, ce sera leur famille, c'est-à-dire tous ceux qui sont proches, enfin entre guillemets, ils peuvent être lointains, justement, pour les revoir.
Donc, on va redécouvrir la France, on va découvrir les régions françaises. C'est quelque chose auquel il faut s'attendre pour les prochains mois.
Ah, c'est possible. Le président intervenant l'a évoqué, les régions les moins contaminées, les moins impactées, effectivement. L'arc atlantique, la Bretagne, les Pays de Loire, la Nouvelle-Aquitaine seront sans doute des destinations privilégiées, hein, c'est certain. Sans doute aussi les Pyrénées, etc. Alors peut-être qu'il y aura une sorte d'inversion pendant l'été en direction de l'intérieur, parce que généralement, l'été, c'est la grande ruée sur le littoral. Mmh. Là, peut-être qu'il y aura une redécouverte, effectivement, de la campagne, dans le siège de la revanche de ces lieux dits morts, si vous voulez, y compris, on va peut-être aimer la campagne, y compris en été, la redécouvrir dans ses campings, dans ses gîtes, dans ses résidences secondaires, parce que nul doute que, ou les maisons familiales, on va se retrouver, parce que la première destination des Français à court terme, pour les vacances d'été, c'est déjà comme ça, il faut le savoir, l'été, c'est quand même, ce sont des grandes vacances qui ne sont plus si grandes qu'avant, mais qui sont toujours, qui ont toujours le même sens, c'est-à-dire c'est quand même d'abord le moment privilégié des retrouvailles,
des réunions familiales.
Ouais. Et voilà, voilà. Et alors là, évidemment, ça va être intensifié, exacerbé après le confinement, ça c'est clair. Donc ça, là, de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de doute quant à la destination, je dirais, humaine.
Et là, les barrières vont sauter, on va se retrouver, on va s'embrasser, on va se toucher sans masque, sans. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui, je vois très bien.
On ne se sera pas vu pendant des mois.
Je pense qu'il y aura quand même un minimum il y aura forcément des infractions, des transgressions. Le désir est plus fort que tout, mais le fait est qu'il y aura sans doute des vacances plus davantage portées sur le huis clos, sur l'isolat. Ouais. Alors, ce qui pose effectivement une question pour les plages, je pense que ça.
Alors, la plage, c'est une grande question parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, de Français, qui n'imaginent pas. Des vacances sans la plage. La plage avec la distanciation sociale, c'est possible ? Alors, c'est possible sur l'Atlantique, sans doute, sur la Côte d'Azur, je ne sais pas.
Voilà, je pense que c'est un petit peu du cas par cas ou du type de plage par type de plage. Et ça, ce sera à la discrétion, à la limite des arrêtés municipaux ou préfectoraux au besoin, pour un petit peu savoir comment occuper ou investir l'espace de la plage. Mettre en place, au fond, des checkpoints pour passer sur la plage. Un peu comme dans un musée, c'est-à-dire au-delà d'un certain stade, on arrête les entrées, etc., pour qu'il y ait un espace calculé de relative distance entre chacun. Bon, c'est vrai que la plage est par définition le lieu d'une promiscuité joyeuse, en général.
Ben oui.
Donc, cette promiscuité-là, il ne faut pas trop y rêver. Bon, il y aura la promiscuité familiale, tribale, ça, bon. À la limite, elle est inévitable, je pense, elle est inévitable. Elle a été vécue par quantité de gens pendant le confinement. Bon, ça a été tout le problème, d'ailleurs, se déplacer en voiture, seul ou à deux, quand vous vivez avec la même personne. Pourquoi d'un seul coup, ne pas se déplacer en voiture ensemble ? Bon, là, le fait est, c'est que sur la plage, on est un peu plus nombreux, non seulement d'un point de vue global, mais aussi d'un point de vue individuel, c'est-à-dire c'est famille par famille, tribu par tribu, etc. Bon, le port du masque sera certainement imposé, j'imagine.
Le port du masque sur la plage.
Bah oui, oui.
Ça va être sympa.
Oui. Ça va être très sympa. Ça sera pas le carnaval, je vous l'accorde. Hein. Mais à la limite, peut-être, ce sera peut-être la condition. Moi, j'en sais rien. Hein. Ça dépendra des arrêtés, mais.
Ah, c'est même les naturistes auront la marque du bronzage, pour le coup.
Voilà, c'est ça, vous savez. Il y a eu cette publicité pour un nouveau bikini, il y avait le slip, le soutien-gorge et le masque.
Du coup, la plage va peut-être perdre de son intérêt.
Elle va perdre, sinon pas de son intérêt. Son intérêt est absolument indestructible, nous sommes dit, puisque c'est un lieu unique de rassemblement, de voir et être vu, etc. Mais là, il va être suspendu, cet intérêt, forcément, frustré, abîmé par les contraintes, je dirais, sanitaires. Donc ça n'est qu'une question de temps, hein, précisément. Mais c'est vrai que c'est intéressant, j'attends avec impatience de voir comment les gens vont négocier c'est cette situation assez inédite quand même, d'un lieu fait pour se rencontrer où l'on doit s'éviter en même temps. C'est assez curieux.
C'est ce qu'il va falloir apprendre, à la fois se retrouver et continuer à s'éviter. On en a pour des mois, visiblement. Et ça commencera effectivement cet été, par exemple, par la plage. Merci Jean-Didier Urbain et merci à tous ceux qui nous ont permis de vous présenter ce journal inattendu. Je vous retrouve à 18h pour les infos et dans un instant sur RTL, ce sera Confidentiel, Jean-Alphonse Richard, avec au programme aujourd'hui Carrie Fisher, vous savez, Star Wars. Bon après-midi.
RTL, le journal inattendu.